Bonjour, bienvenue dans le deuxième volet de l'émission « Le Collège Centre monte au front ». Ce mois-ci, nous allons tout d'abord lire des articles de presse du Courrier des Alpes qui illustrent la propagande de l'époque, le bourrage de crâne. Ces informations sont très éloignées de la réalité, qui, elle, est beaucoup plus triste, comme en témoigne la liste, très longue, des soldats des Hautes Alpes morts ou disparus entre le 10 et le 26 août 1914. L'invité du mois est Nicolas Cotin, qui va nous parler du 159e régiment d'infanterie au début de la guerre. Enfin, nous allons découvrir un exemple de fraternisation entre soldats français et allemands au travers d'une lettre de Jacques Roman et d'un extrait du JMO de son régiment.
Sublime France. L'arme française est sublime, son ressort est merveilleux. En quelques heures, tous les Français ont été en armes et prêts à leur devoir. Les campagnes sont vides et tout se concentre vers la frontière. La discipline est parfaite. Notre plan de mobilisation se révèle génial. Femmes, vous ne devez pas pleurer parce que les larmes sont faiblesses. Nous avons tous besoin de courage pour laisser partir avec toute leur force ceux qui s'en vont. Tous ceux qui restent se doivent tout entier à l'organisation de la défense militaire dans la mesure où ils peuvent y participer. Il n'est pas un homme, pas une femme, pas un enfant qui ne puisse rendre des services. La France est forte. Quand nos pères, quand nos frères, quand nos fils rentreront triomphants chez nous, nous leur dirons « Nous aussi, nous avons fait notre devoir. Nous avons assuré la vie de ceux qui restaient. Nous avons contribué à la défense nationale et nous avons conservé votre foyer. Vive la France !»
Prisonniers allemands. Une patrouille allemande a été prise à Nomeny par des cavaliers français. Les Allemands n'avaient mangé que des vivres de réserve depuis 48 heures. Ils ont été faits prisonniers, leurs chevaux étaient épuisés et n'avaient pas mangé depuis 2 jours. Le moral des hommes était faible. Mulhouse, sol français. 44 ans. Pendant 44 ans, les petits Alsaciens ont chanté. Cigogne, cigogne, t'as de la chance. Tous les ans, tu passes en France. Cigogne, cigogne, rapporte-nous dans ton bec un petit piou-piou. Et les cigognes ont rapporté beaucoup de petits piou-piou. Mulhouse est française. Maintenant, la France veut l'Alsace et la Lorraine pour établir la justice. La vieille terre d'Alsace et de Lorraine tressaille de reconnaissance. Elle sera délivrée de l'asservissement teuton. Vive la Nouvelle-France.
Le soldat des Hautes-Alpes mort pour la France le 10 août 1914, Roux Émile. Le soldat des Hautes-Alpes mort pour la France le 11 août 1914, Charrière Joseph. Le soldat des Hautes-Alpes mort pour la France le 13 août 1914, Amar Raoul. Le soldat des Hautes-Alpes mort pour la France le 14 août 1914, Chevalier Joseph. Mort pour la France le 15 août 1914, Jouglard Cyril. Les soldats des Hautes-Alpes mort pour la France le 17 août 1914, Boucher Émile, Michel Joseph. Mort pour la France le 18 août 1914, Rambaud Auguste. Juste. Le succès français en Alsace. Les détails arrivent aujourd'hui sur l'occupation de Mulhouse, montrant que nos troupes y ont obtenu un gros succès. L'offensive sur le front de Mulhouse a été menée avec une extrême vigueur. Par un mouvement audacieux, le général Pau a porté ses troupes à l'ouest de Mulhouse, laissant à l'ennemi la liberté de s'engager entre nos lignes et la frontière suisse. Puis, par un deuxième effort, les Allemands ont été rejetés sur Mulhouse. En même temps que notre droite se portait sur Altkirch, notre gauche s'est avancée en direction de Colmar, menaçant la ligne de retraite de l'ennemi. Les Allemands ont été alors contraints d'accepter le combat qui a été des plus violents. Dans un faubourg de Mulhouse, notre infanterie a enlevé la baïonnette 24 canons et a fait plusieurs milliers de prisonniers. La lutte s'est poursuivie dans les rues de maison en maison. Les pertes allemandes sont énormes. 19 août 1914, les régiments haut-alpins arrivent sur le front, Altkirch. Albran Léon, Balsay Joseph, Barnéou Arnoulet Joachim, Barrel Louis, Baume Marie, Bernard Eugène, Bertrand Joseph, Boyer Évariste, Boyer Jean, Chabas Louis, Chantriot Édouard, Chautard Joseph, Clary Joseph, Clément Édouard, Crabalonne Émile, David Élie, Davin Joseph, Domaine Justin, Garcin André, Garnier Joseph, Gauthier Aimé, Gauthier Lionel, Giraud Pierre, Giraud Thelme Jules, Gontard Louis, Guiramant Florimont, Hermite Adrien, Élie Marius, Jacob Émile, Labroche Émile, Joutard Jean, Lacombe Adrien, Magnan Henri, Mas Félix, Massé Louis, Michel François, Mondéville Pierre, Augier Joseph, Orsigny Jules, Para Louis, Pélissier Constant, Perrier Marie, Pimpin Paul, Pinaudier Marc, Pio Adrien, Provençal Arthur, Rebattu Émile, Récent Jean, Robert Eugène, Robert Pierre, Roux Joseph, Saunier Casimir, Taravellier Louis, Voler Joseph. Continuant son succès, une partie de notre armée a occupé Mulhouse, tandis que tout le reste se rabattait sur Altkirch et forçait les Allemands à se replier sur le Rhin qu'ils ont passé en désordre. Ainsi est atteint, initialement fixé à nos troupes dans la Haute-Alsace, le rejet des forces allemandes sur la rive droite du Rhin. Préfet Bourg, mort pour la France du 20 août. Ama Ernest, Armand Jean, Arnaud Beck Léopold, Bérard Paul, Blin Gabriel, Borel Ernest, Breuse Hilaire, Dupère Charles, Henri Marceau, Matteron Auguste, Nod Augustin, Rossignol Joseph, Rouvière Émile, Truffémus Edmond, Valentin Simon. Mort pour la France le 21 août. Blin Marius, Coréard Joseph.
Mort pour la France le 22 août, le jour le plus meurtrier de l'histoire de l'armée française. André Gustave, Bargnaudy Joseph, Bertrand Bernard, Boyer Jean, Chardan Pierre, Galvin Jean, Gras François, Bayas Numa, Polycarpe Gabriel, Robert Théophile, Simon Charles, Sur Marius, Turquin Marcel. Mort le 23 août 1914, Amar Édouard, Assaut Jean, Auvigne Charles, Bermond Marcel, Bernard Adolphe, Blanc Félicien, Brun Noël, Brunel Gaston, Chautard Claude, Couton Lucien, Daniel Julien, De Tomasi Auguste, Digne Jean, Fort Ernest, Garnier Jules, Garnier Pierre, Gérard Léon, Gonnet Louis, Guérin Léon, Guéraud Marin, Joubert Julien, Lagier Auguste, Messirel Joseph, Meyer Pierre, Miolan Marcel, Motet Antoine, Parandier Jacques, Paul Jean, Ponce de Vincent Germain, Ré Henri, Richaud Gustave, Roux Camille. Mort pour la France le 24 août, Brun Alphonse, Colomiès Bertrand, Lapère Armand. Mort pour la France le 25 août, Barral Alexandre, Borel Auguste, Bortino Dominique, Kerr Joseph, Cochard Joseph, Denis Nicolas, Fournier Émile, Garcin Jean, Gontard Joseph, Humbert Aimé, Richier Paul, Ricou Jean.
Mort pour la France le 26 août. Albertini Pierre, Benet Marius, Blanc Louis, Colombani François, Disdier Daniel, Dussert Telmont Pierre, Escalier Pierre, Fort Émile, Franchon Jean, Garagnon au Noël, Gérard Pierre, Guédan Jean, Joursin Jean, Lagier François, Marcelin Félicien, Motte Casimir, Raymond Augustin, Roubaud Jean.
Bonjour Monsieur Cotin, vous êtes professeur d'histoire au Collège de Saint-Bonnet. Vous avez écrit un article sur le 159e régiment d'infanterie. Pouvez-vous nous expliquer où était implanté ce régiment et d'où venaient ces soldats ?
Bonjour, alors le 159e régiment d'infanterie est l'un des deux régiments, gros régiments, qui était basé dans les Hautes-Alpes à l'époque de la Première Guerre mondiale. Le 159e est celui qui était implanté à Briançon. Et les soldats, la majorité des soldats qui étaient dans le 159e étaient originaires du nord du département, donc du Briançonnais, de l'Argentière, de la Valouise, jusqu'au Queyras. Mais on trouvait également des hommes originaires du sud-est de la France, de Valence par exemple, de Grenoble éventuellement pour certains.
Quelles sont les particularités du 159e RI ?
Alors le 159e RI est un régiment de montagne. Il était composé de 4 bataillons au lieu de 3 traditionnellement pour les régiments. Un bataillon comportait 1100 hommes, ce qui nous faisait un total d'environ 4500 hommes pour le 159e RI. C'est un régiment de montagne, alors ce ne sont pas des chasseurs alpins, c'est-à-dire qu'ils étaient en permanence dans leur régiment en montagne, alors que les chasseurs alpins faisaient des manœuvres l'été en altitude, en montagne, et l'hiver ils regagnaient leur vallée. Les hommes du 159e RI étaient en permanence à Briançon. Alors, l'été, ils faisaient des manœuvres dans le Briançonnais, dans le Queyras, ils allaient sur les crêtes, dans les forts autour du Briançonnais, mais à l'année, ils restaient dans le Briançonnais. Au niveau vestimentaire, ils ont une petite particularité, c'est qu'ils portent un béret, un large béret qui s'appelle une tarte, donc qui permet facilement de les identifier sur les photos ou lors des défilés.
Que peut-on dire sur les débuts de la guerre pour le 15-9 RI ?
Les hommes du 159e apprennent la mobilisation le 1er août, lorsque le télégraphe officiel, le télégramme officiel qui annonce la mobilisation est reçu à Briançon. Les hommes sont mobilisés au bout d'une semaine. Il faut à peu près une semaine pour que tous les hommes du régiment soient rassemblés, soient équipés, soient prêts à partir au combat. La deuxième semaine du mois d'août, les hommes sont envoyés à la frontière, sur l'école, pour surveiller la frontière avec l'Italie, puisque l'Italie faisant partie de la Triple Alliance, elle est donc alliée avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, et n'a pas vraiment fait savoir quelle serait son attitude lors du conflit. Donc dans l'incertitude, les soldats du 159e sont envoyés pour surveiller la frontière. Donc ils sont bloqués un petit peu sur place en attendant de savoir quelle est la position de l'Italie. Est-ce qu'elle entre en guerre aux côtés de l'Allemagne ? Est-ce qu'elle reste neutre ? Donc voilà, donc la deuxième semaine du mois d'août, ils restent dans le Briançonnais. Et à partir du milieu du mois d'août, l'Italie affirme officiellement sa neutralité. Du coup, les hommes du 159e RI peuvent être envoyés dans d'autres régions, sur le front, là où il y a vraiment des combats. Donc à partir du 15 août, du 14 août précisément, ils sont envoyés par train vers le front. Ils sont envoyés, alors ils font Briançon, Gap, et ensuite Gap, l'Alsace, ils sont envoyés sur cette zone de combat.
Donc la guerre ne commence vraiment que le 19 août, mais elle s'avère très rapidement meurtrière.
Alors effectivement, ils sont envoyés en Haute-Alsace pour participer à une vaste offensive française qui est lancée dans ce secteur. Et dès leur arrivée, ils arrivent en Haute-Alsace le 17 août. Ils prennent la tête de l'offensive, ils sont au premier rang, en première loge. Et le premier jour de combat pour le 159e, c'est effectivement le 19 août. Alors c'est une journée qui est extrêmement meurtrière. Il y a de très lourdes pertes pour le régiment, puisque toute la journée du 19 août, ils doivent attaquer en chargeant au pas de course, baïonnette au canon, sans artillerie. Ils sont lancés vraiment en masse sur les positions ennemies, et toute la journée, ils sont repoussés par les Allemands qui ont implanté de solides défenses avec de l'artillerie, des mitrailleuses. Et du coup, les vagues d'assaut lancées par le 15-9 au cours de cette journée échouent toutes. Donc il faut attendre la fin de la journée, en fait, que l'artillerie soit utilisée en renfort, en complément des attaques, pour que les offensives lancées par les soldats du 15-9 soient efficaces. Alors, c'est un bilan qui est effroyable. Sur la seule journée du 19 août, on compte 700 pertes, on va dire, pour le 15-9. Alors, il y a une cinquantaine de tués, mais tout le reste, ce sont des blessés, des disparus. Ça correspond à un sixième de l'effectif de tout le régiment qui disparaît, qui n'est plus utilisable en une seule journée.
À quel moment le 15-9 va-t-il s'installer dans la guerre de position ?
Alors, la guerre de position pour le 15-9, elle commence au mois d'octobre, c'est-à-dire qu'au mois d'août, les hommes du 15-9 combattent en Alsace, où ils restent à peu près une semaine. Ensuite, ils sont déplacés, ils sont envoyés dans les Vosges pour défendre une autre position, le col de la Chipote, où là aussi, ils restent à peu près une semaine. Et ensuite, ils sont envoyés à partir du mois d'octobre pour défendre Arras, dans le nord de la France, dans l'Artois, où les Allemands progressent très vite, avancent beaucoup, la ville est menacée, et du coup, les hommes du 15-9 sont envoyés en renfort pour protéger la ville. Et c'est à partir de ce moment-là où ils commencent à creuser des tranchées, à creuser les tranchées la nuit, à les protéger avec des barbelés, et le jour, à essayer d'attaquer les positions ennemies. Alors c'est une période très difficile pour les hommes du 15-9, puisque le mois d'octobre, c'est le mois le plus meurtrier de la première année de guerre. C'est là où il y a le plus de soldats au Alpin du 15-9 qui meurent. C'est vraiment un mois très difficile. Alors, la guerre de position commence uniquement à ce moment-là pour eux.
Pourquoi avoir arrêté votre étude en septembre 1915 ?
Je me suis arrêté en septembre 1915. À partir de ce moment-là, enfin très rapidement, le régiment n'est plus composé majoritairement de Haut-Alpins. C'est-à-dire que les pertes sont tellement énormes pour le régiment qu'on n'arrive plus à compenser les pertes du régiment, morts ou blessés ou disparus, par d'autres soldats locaux, on pourrait dire. Et il faut envoyer des renforts, il faut compléter le régiment avec des soldats qui viennent d'autres régiments, qui viennent d'autres régions de France. L'objet de l'article était d'étudier un peu le parcours de soldats originaires des Hautes-Alpes, et à partir du printemps 1915 à peu près, la majorité des soldats du 15-9 ne viennent plus exclusivement des Hautes-Alpes. Le recrutement a été élargi, on n'a plus uniquement des Hauts-Alpins, c'est pour cette raison que je me suis limité à la première année de guerre.
Eh bien, merci pour vos réponses, à bientôt.
Merci, au revoir.
Lettre de Jacques Roman et extrait du JMO du 275e RI février 1915. Il s'est passé à mon ancienne compagnie, hier, un fait assez curieux. Les Boches leur faisaient des signaux depuis quelques jours et petit à petit, ils sont entrés en communication. L'un lance un paquet de cigarettes, l'autre une boîte de pastilles Valda. Enfin, un de chez nous sort de la tranchée et va partager un bidon de vin avec les adversaires. Tous les Boches sortent alors la tête et applaudissent. Notre ambassadeur en profite pour repérer le numéro du régiment, la largeur du réseau de fil de fer et d'autres renseignements qu'il a rapportés et qui lui ont évité une punition très sévère, car une chose semblable favorise trop l'espionnage. Les Boches ont promis que si nous ne tirions pas et ils ne tireraient plus, jusqu'au moment où on reprendrait les attaques sur ce point. Et en effet, pour les éprouver, nous n'avons pas tiré de toute la journée et ils en ont fait autant de leur côté. Lettre de Jacques Roman à sa sœur Elisabeth, Fliré, le 13 février. Cet événement, décrit par Jacques, est confirmé par le journal de marche et opération de son régiment. Journal de marche et d'opération du 275e RI, Fliré, 12 février 1915. Le soldat du toit, de la 19e compagnie, ayant lié conversation avec les Allemands, va jusqu'à leur tranchée sous prétexte d'échanger du vin contre des cigares et rapporter des renseignements intéressants sur la distance des tranchées ennemies, l'emplacement et la largeur des réseaux de fils de fer, l'âge et la mentalité des combattants.